les gens qui vont aborder une démarche de transformation uniquement basée sur le poids sur la balance, un tour de taille, une taille de pantalon, fortes sont les chances que ça tienne pas dans le temps, parce qu'au moment où ça s'est atteint, il n'y a plus de sens à votre démarche.
Mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy et je vous souhaite la bienvenue à mon podcast « La force de changer ». Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme de balado-diffusion préférée. La Force de changer est propulsée par les centres Humanovo, spécialistes de la perte de poids et de la motivation à l'entraînement. Ici, on vous motive à être en forme et à le rester. On parle de sujets qui vous touchent, on rencontre des gens qui ont transformé leur vie et on s'entretient avec des professionnels de différents horizons.
Bonjour tout le monde, je suis tellement content d'être là aujourd'hui pour le lancement officiel du podcast « La force de changer ». Ça fait longtemps que ça me travaille, ce projet-là, parce que chez Humanovo, puis depuis le temps que je travaille comme entraîneur personnel auprès des gens, je me suis rendu compte qu'une transformation, même si ça part par le côté physique, ça touche beaucoup de sphères de la vie d'un individu. Puis avec ce podcast-là, ce qu'on veut faire, c'est vous inspirer à travers toutes les possibilités qui s'offrent à vous de transformer votre vie de façon durable. Et c'est la mission personnelle que j'ai faite de ma carrière, de m'assurer que chaque personne qui rentre dans mon bureau réussisse à transformer sa vie de façon durable. J'ai abordé ça un peu comme un chirurgien peut aborder son travail. J'imagine qu'un chirurgien, à chaque fois qu'il y a quelqu'un sur sa table d'opération, évidemment, il veut que ça réussisse. Du moins, moi, le chirurgien, si jamais j'ai à me faire opérer, qui va m'opérer, je veux que ça fonctionne. Donc, j'ai abordé mon travail avec autant de sérieux. Puis, dans ce podcast-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre le temps de toucher à toutes ces sphères-là. Parce qu'évidemment, transformer sa vie, ça commence souvent avec un souhait de sentir mieux dans son corps, de perdre du poids, d'avoir plus d'énergie, d'être un peu plus musclé, de sentir plus en forme, d'avoir plus de cardio, peu importe. Puis on se rend compte que changer ses habitudes, au final, ça demande de s'organiser différemment avec son conjoint, ça demande de peut-être remettre en perspective certaines relations qu'on avait au travail aussi, quand on amène nos lunchs, on arrête d'aller manger avec nos collègues au bureau, bref. Tout ça pour dire que la façon dont on va décider de gérer ça intérieurement, ça va beaucoup faire foi de si ça va durer dans le temps ou non. Et toute cette complexité-là, en fait, toutes ces possibilités-là que vous avez de transformer votre vie, on va pouvoir les aborder dans ce podcast-là. La force de changer, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un livre du même titre que j'ai publié il y a 4 ans. Ça l'a fait 4 ans au mois d'août. Puis, pourquoi la force de changer? En fait, quand on se réveille un matin puis qu'on veut un peu reprendre, je vais dire, le contrôle sur son corps ou sur nos habitudes, j'aime pas vraiment le terme contrôle, mais vous comprenez ce que je veux dire, on veut que ça change. Hein? On se réveille un matin, puis on est tanné, on se touche le ventre, ça fait quelques semaines qu'on sent qu'on est de plus en plus serré dans nos pantalons, on sent qu'on est plus essoufflé quand on joue avec nos enfants, peu importe, on veut que ça change. Donc maintenant, on entreprend un processus de changement, puis déjà, quand on commence à changer nos habitudes, on met en perspective que ce qu'on faisait avant, ça devient pas bon. Et maintenant, ben, manger de la laitue, ça devient un comportement qui est associé à quelque chose de bon dans votre tête. Donc, on s'expose à un premier jugement. Et là, il arrive cette façon de percevoir le changement, ce qu'on va appeler la stratégie mentale. Et quand on veut changer des habitudes, on peut utiliser une stratégie d'éloignement. Vous allez voir où je vais en venir. Stratégie d'éloignement, ça veut dire je veux plus être gros, je veux plus être essoufflé, je veux plus manger de crème glacée, je veux plus de ventre. Donc, c'est de tendre à s'éloigner des éléments qu'on ne veut plus voir dans notre vie. Une stratégie de rapprochement, au contraire, c'est de dire, hey, je sais que je pourrais avoir plus d'énergie, être plus présent pour mes enfants, me sentir mieux dans ma peau, peut-être avoir un peu plus confiance, une meilleure estime de moi. Et en voyant ces choses-là d'une façon positive, bien, mon expérience et la littérature sont assez claires sur le fait que les chances de réussite sont beaucoup plus élevées que si on pense pas au gâteau qu'on va arrêter de manger, puis qu'on pense pas à la bière qu'on est tanné de boire, ou peu importe, parce qu'au final, on y pense quand même. Donc, on met une stratégie dans laquelle on veut s'inspirer, et ça m'amène, dans le fond, à amener la quête de sens dans une transformation réussie. Et le sens, inconsciemment, les gens qui réussissent le font. Et dans le fond, dans mes 12 années, 12 et bientôt 13 années de travail comme entraîneur, ce que j'ai tenté de faire, c'est d'extraire les pratiques, donc de comprendre. Tu sais, il y a des gens qui embarquent dans notre bureau ça va super bien, la transformation se passe bien, ils font des ils suivent les changements alimentaires, sans virer fou avec ça, mais ils font des changements notables, ils sont contents de le faire, ils prennent plaisir à s'entraîner, puis 2 ans après, on se rend compte que, ben, crime, ils ont vraiment réussi à transformer leur vie, et ça, c'est vraiment trippant. Donc, j'ai essayé d'extraire les pratiques que ces gens-là avaient consciemment ou inconsciemment pour être capable de modéliser une façon d'approcher le travail puis d'éduquer les gens qui veulent transformer leur vie pour augmenter nos chances de succès. Donc, je voulais en venir où avec ça? Je voulais en venir que, inconsciemment, la quête de sens est très importante. Donc, les gens qui vont aborder une démarche de transformation uniquement basée sur le poids sur la balance, un tour de taille, une taille de pantalon, fortes sont les chances que ça tienne pas dans le temps, parce qu'au moment où ça s'est atteint, il n'y a plus de sens à votre démarche. On dit mission accomplie, what's next? On n'y avait pas vraiment pensé, on sent mieux, on pense qu'on a réussi, et là, ben, on retombe dans nos vieilles habitudes, puis 18 mois plus tard, on revient dans mon bureau en me disant, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. La quête de sens, au final, c'est, ben, je vais parler par exemple pour moi. Je suis propriétaire d'une entreprise, j'ai des collaborateurs, des employés trippants, on a une belle gang de membres. Pour moi, ce qui m'inspire à avoir de bonnes habitudes, ben, c'est d'être un propriétaire d'entreprise, d'être un entraîneur inspirant. Puis mes habitudes de vie, je les base pour supporter ce sens, pour supporter ce rêve-là. Donc, je vais pas me mettre à m'entraîner comme un bodybuilder puis à manger 4500 calories par jour, à m'entraîner 6 jours semaine. Je suis pas comme ça, ça fit pas avec ma personnalité puis mon style de vie. Mais mes habitudes de vie, la façon dont je les ai, la façon dont je les gère, me permettent d'être ça. Donc, vous pouvez vous inspirer de votre rôle de mère, de votre rôle de travailleur, de votre rôle de conjoint, conjointe. Vous pouvez être un concierge, puis décider d'être le concierge le plus inspirant possible, parce qu'un concierge qui a des bonnes habitudes de vie, puis si vous prenez plaisir à faire votre travail, tout ça s'imbrique dans un sens qui est plus grand que juste la balance ou une taille de pantalon. Donc, le focus, l'attention est différent quand on approche une démarche de transformation de cette façon-là. Donc, en fait, la force de changer, c'est de changer les comportements, les croyances, les habitudes, conscientes ou inconscientes, qui vous empêchent d'être pleinement vous-même, de vous coucher le soir, d'être bien dans votre corps, d'être bien dans votre vie, d'être heureux. Et donc, c'est pour ça que ça touche beaucoup de sphères de la vie d'une personne. Et c'est pour ça qu'un podcast, je trouvais que c'était la plateforme idéale pour toucher à tous ces aspects-là. Donc, dans les prochaines semaines, vous allez voir beaucoup de personnes invitées à mon podcast qui vont parler de différents sujets qui touchent de près ou de loin la transformation. Et voilà. Donc, c'est pour ça la force de changer. Il y a l'aspect de changement. En même temps, on veut pas changer qui on est, hein. On veut changer les comportements qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Et ce qu'on veut, c'est vraiment, chez Humanovo, on dit l'alignement physique, mental, émotionnel. On veut se sentir bien dans notre corps. On veut être bien dans notre tête aussi, avoir des pensées positives. On veut être fier de ce qu'on accomplit. Puis, on veut se sentir bien dans ce qu'on vit, nos interactions avec les autres. Puis, ben, évidemment, les événements qu'on vit dans le quotidien d'une vie. Donc, on va parler dans les prochaines semaines de plein de choses. On va parler d'alimentation intuitive, on va parler de leadership, on va parler de co-vécu. Il y a des gens qui vont venir témoigner de leur expérience pour que vous puissiez comprendre que vous n'êtes pas les seuls à vivre ça. Et je vais parler de différents sujets aussi ouvertement avec vous, des sujets qui me touchent puis que je pense qu'ils vont être pertinents pour vous dans ma façon de l'expliquer. Donc, c'est ce qu'on va vivre ensemble dans les prochaines semaines. J'ai extrêmement hâte de vous présenter les invités. Aujourd'hui, je vais vous expliquer mon parcours et pourquoi aujourd'hui on en vient qu'à travailler de cette façon-là chez Humanovo. Et je pense que ça va mettre la table aussi sur les sujets des prochaines semaines. Donc, j'ai commencé il y a 12 ans mon travail d'entraîneur. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai étudié en graphisme. Et ben, moi, il y a deux personnes vraiment qui ont marqué mon parcours. C'est Guy Verret, puis François Bélanger. Guy Verret qui était qui était responsable du parcours entrepreneurial à l'Université Laval. Et j'étais en graphisme à l'époque. Et en remettant mon projet de fin de session sur un projet d'affaires en graphisme, il m'a gentiment fait savoir qu'il n'y avait rien dans mon projet. Et moi, étant ancien athlète de taekwondo, il m'a demandé « Qu'est-ce que tu ferais de tes journées, Pierre-Hugues? » Puis je lui ai dit « Moi, je suis à quelque part dans le monde, je m'entraîne, je dors, puis je mange, puis je serais heureux, tu sais. Donc, il m'a dit, fais donc un projet en lien avec le sport, puis, ben, tu sais, tu feras le logo de cette compagnie-là. Ce sera le lien avec le graphisme. Donc, c'est ce que j'ai fait, puis j'ai fait un projet de développement d'athlète qui avait ni queue ni tête pour de vrai, mais il dit, Pierre-Hugues, il y a quelque chose dans ce projet-là, il y a quelque chose d'inspirant. Fait qu'il m'a dit, va donc travailler dans le sport. Ce que j'ai fait, cet été-là, après un an à l'université en design graphique, je suis allé au Nautilus dans l'espoir de travailler comme entraîneur parce que j'étais athlète. Je connaissais rien au milieu. J'avais pas les compétences pour entraîner les gens à l'époque, mais j'étais habité d'une bonne intention de faire une différence. Donc, je suis engagé comme représentant des ventes. Donc, Guy m'a amené dans ce milieu-là. Je suis toujours très reconnaissant. Si jamais tu m'écoutes, Guy, bonjour. Et rendu dans l'entreprise, donc, le gérant qui était en poste, François Bélanger, m'a dit « Pierre-Hugues, t'as vraiment le profil d'un entraîneur. Tu voudrais pas devenir entraîneur, étudier dans le milieu. » Ce que j'ai fait, donc j'ai changé du tout au tout cet été-là. Je me suis trouvé un nouvel emploi. J'ai commencé à étudier comme entraîneur en intervention sportive. Ben, j'ai pas étudié comme entraîneur, j'ai étudié en intervention sportive. Puis un an après, j'ai commencé à travailler comme entraîneur. Et les premiers clients que j'ai eus, mais tu sais, t'as toute la théorie universitaire, tu rencontres les gens, ils veulent se remettre en forme, et là, tu calcules tout comme la bonne science universitaire te le montre. Puis au final, je me suis rendu compte, crime, si une personne m'engage aux deux semaines, ben, il y en a avec qui ça fonctionne, qui vont faire le plan d'entraînement, puis c'est trippant, puis ça, c'est des gens faciles. Donc, si ça fonctionne, ça va. Moi, je me suis intéressé, si ça fonctionne pas. Donc, il y a des gens qui t'engagent, par exemple, aux deux semaines, puis que entre les deux rencontres, ils ont rien fait. Donc, je me suis dit, crème, c'est pas, j'ai beau calculer le programme de la meilleure façon possible, c'est pas le programme qui est le problème. Il y a quelque chose dans la vie de cette personne-là qui fait en sorte qu'elle est pas capable de concrétiser ses bonnes intentions, qu'elle est pas capable de mettre en place le style de vie qu'elle veut. Donc, la première chose que j'ai fait, j'avais 23 ans, j'ai trouvé une formation, pas en psychologie, mais je cherchais une façon d'accompagner, de mieux comprendre comment accompagner mes gens. Et c'est là que je suis tombé sur la programmation neurolinguistique. Dans le fond, la programmation neurolinguistique s'intéresse à la façon dont on est programmé depuis notre naissance pour comprendre nos croyances, puis comment on peut les modifier pour que ce soit des croyances qui soient aidantes. C'est plus complexe que ça, mais j'essaie de synthétiser un peu. Donc déjà à 23 ans, j'abordais mon travail avec une paire de lunettes très humaniste. Je voulais mieux comprendre qu'est-ce qui motivait les gens à passer à l'action, puis mieux comprendre aussi qu'est-ce qui les limitait dans leur capacité de le faire. Donc, j'étais pas outillé pour vraiment faire ces transformations-là, mais j'ai commencé à questionner très différemment mon monde. Et là, je travaillais toujours dans cette grande chaîne de conditionnement physique. Fait que de fil en aiguille, les valeurs que je portais changeaient un petit peu parce que j'avais envie d'avoir un environnement qui portait plus à la transformation humaine qu'un grand gym peut offrir. Par la suite, je me suis rendu compte que, évidemment, ben, on a des cours d'anatomie puis de biomécanique à l'université, mais on est très peu outillé pour mieux gérer les déséquilibres musculo-squelettiques puis avoir une intervention plus corrective du mouvement. Donc, ça m'a amené en Californie, dans la Czech Institute. Je remercie mon collègue Stéphane Lapeyre qui m'a fait connaître Paul Czech, qui est un peu aujourd'hui illuminé, mais qui a des connaissances extraordinaires sur l'être humain. J'ai appris énormément de choses. Donc, le parcours de la Czech Institute, il y a deux volets. Un volet qui est vraiment comme plus praticien, où est-ce qu'on parle de posture, on parle de tension musculaire, déséquilibre postural, exercice correctif, vraiment un plan d'intervention hyper individualisé pour l'unicité de chaque corps humain. Puis, un volet coaching de vie, plus au niveau nutrition, style de vie, sommeil, gestion du stress. Et j'ai entamé le processus éducatif, donc j'ai dû faire l'équivalent peut-être de 5 ou 6 semaines collées là, avec tous les modules que j'ai étudiés dans cet institut-là. Et là, ça m'a vraiment permis de mieux comprendre comment adresser le mouvement d'une façon qui est individualisée et comment aussi comprendre l'impact du style de vie sur la santé d'une personne. Donc, j'étais mieux capable de saisir à travers ce que la personne me disait, comment on va gérer le sommeil, le stress, l'intensité de l'entraînement, les habitudes nutritionnelles pour avoir un plan d'intervention qui est digeste. C'est-à-dire que on propose pas un plan qui est trop complexe au niveau alimentaire, un plan qui est trop complexe au niveau de l'entraînement, un plan qui est trop complexe aux habitudes de vie, mais plus être capable de prioriser quelle est l'urgence en ce moment, puis c'est quoi le ou les éléments qui vont avoir le plus gros levier de changement chez une personne, parce que c'est ce qu'on veut ultimement, que là où les deux ou trois actions qu'on décide d'implanter dans notre vie, qu'on décide de faire, ait un gros impact, une grosse rentabilité sur les objectifs puis les attentes qu'on a de notre démarche. Et ça, c'est motivant. Si on attend, par exemple, que notre entraînement au gym nous donne beaucoup d'énergie puis qu'il nous fasse perdre du poids, mais écoute, je sors dehors, je déblaye l'auto, prends mon char, fais 15 minutes de route, va t'entraîner 1 heure et quart de temps, reviens, redéblaye l'auto. Tu sais, le processus prend 2 heures. Si tu fais ça 4-5 fois par semaine, c'est 8 ou 10 heures de ton temps. Tu sais, c'est beaucoup de temps. Puis au final, si la nutrition suit pas, puis si le sommeil suit pas, ben t'auras pas les résultats escomptés. Donc ça, c'est pas un levier de changement. Au contraire, c'est hyper démotivant. Donc là, je commence à être mieux outillé pour bien cibler là où les éléments qui font en sorte qu'une personne va voir des changements probants et pertinents par rapport à ses objectifs. Donc, j'ai suivi ce parcours-là. À travers ça, ben, ça m'a permis de mieux comprendre comment gérer des douleurs lombaires, donc vraiment une anatomie plus spécifique au niveau lombo-pelvienne. C'est quoi des plans d'intervention plus précis qu'on peut faire pour mieux gérer les douleurs. Évidemment, dans la façon de gérer le style de vie dans ce parcours-là, on était précis au niveau de l'alimentation, mais pas tant que ça. Donc, j'ai réussi à suivre des formations avec Precision Nutrition pour être plus précis au niveau des recommandations alimentaires. Aussi, bon, ben là, tu questionnes les gens un peu sur leur quotidien. Et là, je suis rendu peut-être à ma 7e année de pratique, 8e année de pratique. Je me rends compte que le stress, le rythme de vie est un des enjeux majeurs. Les gens se lèvent, sont stressés, la routine des enfants, le travail, la pression, on revient, tatata. Et là, les journées s'enchaînent, on veut s'entraîner là-dedans, on trouve pas le temps, on trouve pas comment on va réussir. Et je trouvais que la méditation était un levier super pour être capable de mieux gérer justement cette pression intérieure-là qu'on vit, ces ronrons mentaux auxquels on fait face. Donc, c'est une formation avec l'Ordre des psychologues du Québec. Donc, j'étais capable d'annexer un peu des recommandations au niveau de la méditation pour améliorer la gestion du stress, diminuer le stress accumulé, améliorer le sommeil, parce que c'est bien documenté que la méditation a un meilleur impact sur la qualité du sommeil qu'un enseignement de l'hygiène du sommeil. Exemple, moins faire de cellulaire, pas manger de sucre le soir, essayer de tamiser les lumières 1 heure avant de se coucher, etc., etc. Même si on recommande à des gens cette éducation-là sur le sommeil, les groupes qui méditent ont des meilleurs bénéfices au niveau de la qualité du sommeil. Donc, je trouvais que c'était hyper intéressant. Et là, je me suis lancé dans des éléments plus de libération émotionnelle parce qu'au final, on entend souvent manger ses émotions, puis des fois, on reste pris dans des patterns. Une émotion, c'est pas rationnel. Une émotion, ça vient comme c'est dans notre ADN par rapport à nos expériences de vie. Donc, j'ai testé des méthodes qui sont pas très rationnelles pour essayer de changer un peu ce rapport-là, ces perceptions-là qu'on a de nos démarches. Ça a été hyper trippant. Donc, ça a été un peu ça. J'ai fait d'autres formations avec, bon, plus au niveau de la posture, au niveau des ailes d'oie qu'on appelle de la mobilisation vraiment spinale. Et j'ai fait des formations en biomécanique. Je m'étais vraiment comme intéressé aussi à un retour aux sources, un entraînement musculaire plus qualitatif dernièrement. Donc, j'ai fait une formation en biomécanique. Puis aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup au leadership. Donc, j'en suis là dans mon cheminement. Tout ça pour dire j'ai réussi à adresser un éventail assez large d'interventions pour être capable de donner le bon outil à la bonne personne au bon moment, à travers le discours, les échanges, être capable de sensibiliser les gens sur ce qui était possible de faire pour qu'ils réussissent à voir vraiment les éléments qu'ils veulent voir dans leur vie. Donc, pour nous maintenant, c'est quoi une transformation réussie? Au final, c'est vous qui guidez parce que c'est votre expérience. Pendant longtemps, j'ai démonisé les programmes de perte de poids et de transformation parce qu'évidemment, c'est toujours rattaché à une notion qui n'est pas durable dans le temps. Puis c'est en partie vrai, dans le sens où il y a des gens qui vont rentrer dans nos bureaux qui ont besoin de changement, qui vont dire « Pierre-Hugues, là, je suis écœuré. J'en ai plein le CUL. Je veux que ça change. » Qu'est-ce qu'on fait? Donc, évidemment, ces gens-là, on va les encadrer dans une façon de faire qui est peut-être un peu plus orientée sur les résultats, sachant très bien que ça ne durera pas. Mais on préfère que ces gens-là vivent leur expérience chez nous parce qu'on est outillé pour les rattraper quand ça va partir en vrille, qu'ils partent faire leur expérience avec un Beachbody coach, peu importe, quelqu'un qui en fait pas vraiment une profession puis un métier, qui sera moins outillé tout simplement pour rattraper une personne qui est en difficulté parce que au final, les habitudes qu'elle a mis en place, ils étaient pas durables dans le temps parce que c'était très déconnecté de qui elle est, de ses habitudes de vie, de sa cellule familiale. Donc, il y a toute une gestion autour de ça qu'il faut être capable d'accompagner l'individu qui vit ces changements-là. Et s'il vit pas, il passera pas à l'action. Il faut qu'il vive comme ça, puis c'est correct de le vivre comme ça. Donc, on a une façon d'encadrer ces gens-là. Il y a des gens qui viennent nous voir aussi, donc, excusez-moi, pour ces gens-là, qu'est-ce qu'une transformation réussie? C'était ça le but de ma démarche. Une transformation réussie, ça sera quand on aura réussi à transcender les métriques physiques, donc le pourcentage de gras, le poids, la circonférence de taille, dans, comme j'expliquais tantôt, un sens qui est plus grand que juste ça. Parce qu'on veut que ça dure dans le temps. Donc, si quelqu'un est capable de se détacher de l'urgence d'agir et de différencier les habitudes qui vont nous amener à un poids santé, il y a souvent une émotion ou une attente qui est rattachée à ça. Exemple, je veux perdre du poids parce que je vais avoir plus confiance en moi. C'est pas complètement divisé. Donc, ça, il va avoir un impact. Mais c'est quand même deux choses séparées. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas les deux parallèlement, fortes sont les chances d'abandon. Donc, si on est capable de faire du ménage dans tout ça et d'entamer plus, de diriger cette transformation-là plutôt vers un processus que l'atteinte d'un objectif, on aura réussi parce que ce qu'on veut, c'est que ça dure dans le temps. Il y a des gens qui vont venir nous voir et, bon, ce que j'appelle les gens qui sont des bonbons, hein, des gens avec qui c'est facile de travailler puis c'est plus simple, c'est des gens qui sont conscients que c'est un travail de longue haleine, qui ont besoin de changement, qui sont sensibilisés à ce à quoi ils s'embarquent. C'est souvent des gens qui ont peut-être une expérience ou pas beaucoup d'expérience de mise en forme ou d'entraînement. Et là, ben, c'est un processus qui est plus lent et ça suit son cours des choses, c'est beaucoup plus facile. Et au final, ces gens-là, on va avoir réussi, quand on va avoir réussi à atteindre leur objectif, ou les remettre en perspective pour que leurs attentes puis ce qui se manifeste dans leur vie soit vraiment au même niveau et que ça dure dans le temps, donc qu'ils soient engagés dans leur processus à long terme. Et c'est le processus qui est important, c'est ce qui va faire en sorte que ça dure dans le temps. Puis il y a des gens qui viennent nous voir et là qui ont fait 17 régimes, qui sont pas bien dans leur peau, qui ont une relation peut-être un peu tordue avec l'alimentation, qui vont avoir des pics d'excès et là ils se découragent, ils se démotivent, des gens qui se sentent coupables. Bref, ça peut être un mélange de une ou plusieurs des choses que j'ai dit en rafale. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment un processus qui est un peu plus de longue haleine. Et pour ces gens-là, la réussite va être différente, mais surtout quand on va avoir trouvé un peu leur équilibre puis leur centre dans tout ça. Donc, on essaie d'enlever les solutions magiques, d'enlever la dichotomie de c'est bien, c'est mal. C'est de les recentrer sur eux, qui ils sont, c'est quoi leurs aspirations, qu'est-ce qu'ils veulent accomplir dans leur vie, puis proposer justement des habitudes qui vont aller dans ce sens. Et ça m'amène à vous parler du dernier sujet qui est la motivation. Parce qu'évidemment, pour que ça tienne dans le temps, comme je vous disais, c'est un processus. Donc, on va être engagé. Puis, moi, je parle de la santé maintenant. Je sais pas pourquoi ça m'est venu, cette comparaison-là. Je pense que c'était dans une vidéo que je faisais. Puis, ça m'est venu comme ça. Au final, la santé, c'est un peu comme avoir des enfants. Tu sais, au moment où on décide d'être parent, on met au monde un enfant, ben même si des fois on est tanné, ben il est là quand même. Puis des fois on est des bons parents, puis où on a l'impression d'être des bons parents, puis des fois on a l'impression d'être complètement à côté de la traque, mais toujours est-il qu'on est toujours parent malgré nous. La santé, c'est un peu la même chose. Donc peu importe ce que vous faites, vous avez une santé à gérer, que vous le vouliez ou non, c'est malgré vous, vous avez une santé à prendre soin de. Ce qui est différent, c'est qu'un enfant, vous êtes redevable à quelqu'un. Une santé, vous êtes redevable à vous-même. Donc, ça m'amène à parler de la motivation parce que qu'est-ce qui fait en sorte que les gens vont continuer à être engagés dans le temps? C'est hyper important. Souvent, ce qu'on va voir, c'est des gens qui viennent dans notre bureau puis qui ont un choc, un événement marquant qui fait en sorte qu'ils ont envie de s'engager. Exemple, une séparation. Je me suis séparé, là, je tombe dans un programme, je me remets à bien manger, je m'organise, je m'entraîne, boum. Ça peut être un élément de motivation, un élément déclencheur. Ça peut être un AVC, une rencontre chez le médecin, la prise d'un médicament. Peu importe, tout le monde a sa raison, ou ben tous les gens qui vivent un événement ou un choc qui les amène à passer à l'action ont leur raison. Maintenant, ce qu'on va trouver aussi comme motivation, donc le choc ou l'événement majeur est un des éléments de motivation première. Un événement peut être aussi motivant. Exemple, s'inscrire à un 10 km. C'est des choses qui vont motiver les gens à passer à l'action. C'est s'inscrire à une course à obstacles, un triathlon, peu importe. S'inscrire à un événement sportif peut être une façon d'être motivé. Un défi aussi, donc un défi de 28 jours sans sucre, un défi de perte de poids. Chez nous, on a un défi de 6 semaines qui est très populaire. C'est des gens qui sont hyper motivés. Donc, peut-être que les gens arrivent, qui ont vécu un choc, puis qui s'engagent dans un défi de 6 semaines. Ça peut être une ou plusieurs de ces réponses-là. Quelqu'un peut vivre un choc, puis décide de s'inscrire à un 10 km. Donc, tout ça est vrai. Le fait d'être redevable envers quelqu'un. Donc, moi, c'est un de mes éléments de motivation premier. Moi, j'ai un partner d'entraînement. Je sais que c'est ça qui me motive le plus. Donc, c'est un des leviers motivationnels. Et c'est pour ça que je parlais tantôt d'être parent. Mais là, vous êtes redevable envers quelqu'un. Donc, même si ça vous tente pas le soir d'arriver puis de faire à souper puis de préparer un lunch pour votre enfant, lui attend ça de vous. Donc, on passe à l'action. D'avoir un plan clair aussi, l'inverse, d'être dans le néant, c'est pas très motivant. Donc, d'engager un professionnel, un entraîneur ou un coach qui va un peu trier à la volée ce qui est pertinent et pas pertinent pour vous, puis qui va vous donner un plan d'action clair, c'est motivant. Maintenant, la motivation, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous lancer dans l'action. Il arrive un moment où il y a cette discipline qu'on veut s'imposer. Je reviens au sens tantôt qu'on donne. Si vous vous dites, regarde, moi, je veux être une mère vraiment inspirante pour mes enfants, ça me parle, je suis animé de ça, j'ai un travail, c'est correct, je vais pas chercher, moi, ma satisfaction. C'est pas là que je me couche le soir en me disant, j'ai bien travaillé. Moi, c'est quand j'ai été présente auprès de mes enfants. Et c'est ça, vous, qui est motivant pour vous. À un certain moment donné, il y a une certaine discipline, hein? Donc on va développer des bonnes habitudes, puis on veut se discipliner à faire les choses pour que dans notre vie se manifeste ce qu'on veut vraiment voir. Et quand on parle de discipline, j'aime beaucoup le lier aussi à la bienveillance, parce que ça se peut que ça fonctionne pas. Ça se peut qu'une semaine, ça aille mal. Et si on manque de discipline cette semaine-là, on veut pas commencer à se dire intérieurement, à avoir un discours interne qui est négatif, à commencer à s'insulter parce qu'on n'est pas assez bon, on n'est pas capable de faire les choses, etc. On va être bienveillant et savoir que avoir une attitude bienveillante, dans le fond, c'est imaginer que vous parlez à un petit enfant, vous dites hey, ben non, c'est pas grave si ça n'a pas bien été cette semaine, ça se peut, puis on n'est pas parfait, puis c'est correct comme ça. Puis si vous parlez comme ça à un enfant, fortes sont les chances qu'il se sente mieux que si vous dites « Voyons donc, t'as pas été bon cette semaine, d'habitude t'es capable de le faire, puis là tu l'as pas fait, t'as pas d'allure. » Si vous parlez comme ça à votre enfant, je suis pas mal sûr que ça va moins l'inspirer puis le motiver que si vous êtes bienveillant envers lui. C'est la même chose pour nous. Donc, on veut s'imposer à un certain moment une discipline. Une discipline, c'est le faire pour le faire. Donc, la motivation de départ, ça se peut que le 10 km vous motive, vous voyez des changements dans votre temps, c'est trippant. Et en un moment, si vous sentez les bienfaits de cette activité physique-là dans votre vie et vous sentez que ça supporte le sens que vous y donnez, ben on va s'imposer une certaine discipline pour être capable que ces choses-là continuent à se manifester dans votre vie. Et si jamais ça marche pas une semaine, on va être bienveillant envers nous pour comprendre et se permettre ces moments-là, parce que ça fluctue et on n'obtiendra jamais un équilibre parfait de dire... Et je pense qu'il y a quelque chose de vraiment faux dans l'idée de croire qu'on va être parfaitement équilibré, qu'on va avoir vraiment notre centre, puis que ça va toujours être correct. Par défaut, l'équilibre nécessite qu'il y ait des déséquilibres. Parce que sinon, on parlerait pas d'équilibre. On aurait juste, ça serait beige, ça serait plat, tu sais, ça serait facile. Donc, cette gestion d'équilibre-là, il faut toujours la revisiter. Donc, c'est normal qu'on tombe bref. Ce que je voulais amener, c'était simplement qu'il y a un aspect motivationnel de départ, qu'il y a certains facteurs qui nous motivent, qui peuvent revenir ou non dans une vie. Puis nécessairement, la discipline aura sa place dans l'implantation d'une transformation réussie. Et si on veut que la discipline, on va l'approcher d'une bonne façon pour être capable de le maintenir dans le temps, ben on va parler parallèlement de bienveillance, parce qu'on veut pas commencer à se bâcher puis à avoir un discours interne qui est négatif parce qu'on n'est pas parfait puis on n'est pas tout le temps en parfait équilibre et harmonie avec nos habitudes et qui nous sommes. c'est pas vrai que ça fonctionne comme ça. Donc, c'était la petite partie de la motivation. Tout le monde, je suis tellement content d'avoir pu partager un peu la raison du podcast, la force de changer, pourquoi on en vient à travailler de cette façon-là aussi, c'est quoi un peu l'angle d'approche, les réflexions qui ont mené à ce qu'on va discuter dans les prochaines semaines. Je suis content d'avoir eu la chance de parler de motivation avec vous. Je vous invite à suivre le podcast sur Apple Podcasts, Spotify, partager, parlez-en. Vous êtes nos ambassadeurs. Tout le monde, je vous remercie. Puis on se voit dans 2 semaines pour un prochain épisode.